RFI, les 13h à Paris, une heure de moins en temps universel. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Florent Guignard, bonjour.
Bonjour à la une de ce journal. Le ton se tend entre l'Ukraine et les États-Unis après les dernières déclarations de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky et le rapprochement opéré entre les États-Unis et la Russie. Nous serons dans un instant en direct de Kiev, la capitale ukrainienne. Alors qu'à Paris, Emmanuel Macron organise cet après-midi une nouvelle réunion liée au bouleversement géopolitique et stratégique sur la sécurité européenne annoncé par le président des États-Unis. Également, dans ce journal et dans l'actualité, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera ce soir à New York sur la guerre dans l'est de la RDC. Dans ce journal, reportage sur le lac Kivu, le M23, les rebelles du M23 ont autorisé hier la reprise de la navigation. Dans l'actualité française, on parlera de la candidature de Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, à la présidence du Conseil constitutionnel. Est-ce que les parlementaires vont accepter cette candidature? Réponse peut-être dans ce journal. Et puis, on parlera aussi du Brésil avec l'inculpation de l'ancien président Jair Bolsonaro, inculpé pour avoir projeté un coup d'État après sa défaite face à Lula lors de la dernière présidentielle.
RFI Midi. La satisfaction de Moscou au lendemain du sommet Russie-États-Unis hier en Arabie Saoudite.
Et oui, le Kremlin parlait ce matin d'un pas très très important vers une résolution pacifique de la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, applaudit aussi des deux mains les dernières déclarations de Donald Trump qui accusait l'Ukraine d'être responsable de la guerre en voulant rejoindre l'OTAN. C'est donc dans ce contexte un peu tendu du point de vue ukrainien que l'émissaire de Donald Trump est aujourd'hui en visite à Kiev où on retrouve notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, quels sont les enjeux de cette visite de Kiskelo?
Eh bien écoutez, la visite de Keith Kellogg, elle se produit dans un contexte tendu puisque Donald Trump s'est lancé dans une véritable tirade de mensonges à l'égard de l'Ukraine en questionnant la légitimité de Volodymyr Zelensky et en lui inventant une cote de popularité fantaisiste puisqu'il parle de 4% de l'opinion ukrainienne favorable à Zelensky alors qu'elle est actuellement de 57% et accusant, comme vous l'avez dit, Kiev d'avoir commencé la guerre, quelle fête de Moscou, s'il faut le rappeler, qui lance des bombes sur l'Ukraine quotidiennement depuis 3 ans. Maintenant. D'ailleurs, la nuit dernière, Odessa, dans le sud du pays, a été touchée par des drones. Plusieurs personnes ont été blessées. Plus de 160 000 sont toujours sans électricité, alors qu'on a des températures ici en dessous de zéro. Alors, Kiskelog restera en Ukraine pendant 3 jours. On ne sait pas encore s'il acceptera la proposition ukrainienne de se rendre près de la ligne de front. En tout cas, l'envoyé spécial de Washington affirme qu'il, je cite, « comprend le besoin de garanties de sécurité et l'importance de la souveraineté de la nation ukrainienne » et qu'il écoutera ce qu'on lui dira à Kiev à l'issue de cette visite que l'on suivra. Il partagera ses impressions à Washington.
Emmanuel Chaz en direct de Kiev et Volodymyr Zelensky a fait plusieurs déclarations depuis ce matin contre Donald Trump qui vit, selon le président ukrainien, dans un espace de désinformation. Le président ukrainien accuse aussi les États-Unis d'aider Vladimir Poutine à sortir de son isolement international.
Et on en reparlera dans quelques minutes avec Philippe Golug, politologue, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Les Européens, eux, de leur côté, tentent de reprendre la main.
Oui, avec une nouvelle réunion organisée aujourd'hui par la France. Ce sera cet après-midi à Paris, au Palais de l'Élysée. Le président roumain est sur place et les autres participants sont en visioconférence 2 jours après un premier sommet informel organisé à l'Élysée. Romain Lemaresquier.
La Russie représente une menace existentielle pour les Européens, a rappelé le chef de l'État français ce mercredi dans une interview à la presse régionale française. Emmanuel Macron se méfie des pourparlers entamés ce mardi entre la diplomatie russe et américaine et cherche à affirmer une position commune avec ses partenaires européens. Ce mercredi, le président français va donc se réunir avec les pays absents lundi dernier, dont certains s'étaient dit consternés de ne pas être invités. La Belgique, les Pays-Baltes, la Tchéquie, la Grèce, la Finlande, la Roumanie et la Suède, tous membres de l'Union Européenne, sont conviés. La Norvège et le Canada devraient participer aux échanges. Une réunion qui se fera en visioconférence. Seul le président par intérim roumain sera présent physiquement. La question de l'absence de l'Ukraine et de l'Union européenne dans les pourparlers entamés hier en Arabie saoudite sera au menu, tout comme le renforcement de la sécurité européenne. Lundi soir, après la première réunion de ce type avec les principaux contributeurs en termes de dépenses et d'aide militaire, les discussions n'avaient pas permis de dégager une position commune. Ce devrait être encore le cas ce mercredi, sachant que certains pays, à l'image de la Grèce, ne souhaitent pas envenimer leurs relations avec les États-Unis.
Romain Lemaresquier du service international. Et puis cette dernière réaction de la France après les attaques et les déclarations de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky, ce sont des propos peu compréhensible, estime-t-on, du côté de Paris.
La guerre au Congo, Kinshasa au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ce sera ce soir à New York, alors qu'hier, les Nations Unies ont accusé les rebelles du M23 d'avoir tué des enfants lors de leur entrée dans Bukavu il y a quelques jours. Bukavu au sud du lac Kivu, et Goma est au nord. Eh bien, le M23 hier a autorisé la reprise de la navigation sur le lac. Ezra Zikoumana.
Mère de 6 enfants, Lucie est vendeuse grossiste de haricots entre Goma et Bukavu. La reprise du trafic sur le lac Kivu est une bonne nouvelle pour elle. De bonne heure, elle est venue faire la réservation de son billet.
Je suis heureuse car les bateaux peuvent se rendre de nouveau à Goma. Nous avions déjà manqué la marchandise, surtout en cette période difficile. Nous nous sommes rendus tantôt à Katana ou à Kavumu pour essayer d'avoir un peu de haricots à revendre, mais rien du tout. Nous nous ravitaillons à Goma. Nous disons merci beaucoup.
Après avoir gagné le contrôle total du lac Kivu suite à la prise de Goma et de Bukavu, le M23 a indiqué que les ports de ces deux villes seront opérationnels 24 heures sur 24 à compter de mardi. Sur le quai, Paulin se presse pour occuper sa place.
J'étais venu assister à un des. La suspension m'a bloqué ici. Je crois que c'est l'occasion d'aller revoir mes parents.
Baraka Alibakale Julien est agent marketing du bateau MV Esperanza Sandy Love. Il se sent soulagé.
On était dans le chômage, mais à ce moment, vraiment, nous sommes satisfaits. Pour ce premier jour, les nombres étaient minimes. Je pense que petit à petit, à notre deuxième voyage, nous allons encore retrouver nos clients. Le prix est toujours comme on le faisait dès l'avant. Nous avons la classe de 5$, 10$ et 20$.
D'autres passagers estiment que la reprise du trafic va contribuer à améliorer les échanges économiques entre les deux villes, d'autant que la route qui relie Goma à Bukavu reste impraticable depuis les inondations de Kalere en mai 2023.
Inquiétude en Guinée-Conakry pour un responsable de l'opposition.
Abdou Sakho a été arrêté ce matin par des inconnus masqués à son domicile. Ses proches dénoncent un enlèvement alors que Abdou Sakho réclame le retour des civils au pouvoir depuis le coup d'état militaire.
Un mort au Liban dans une frappe israélienne.
Dans le sud Liban, tout près de la frontière avec Israël, une frappe de drone sur un véhicule et cela au lendemain du retrait incomplet de l'armée israélienne qui a conservé 5 positions militaires dans le sud Liban malgré ses engagements dans le cadre du cessez-le-feu.
Et il y a d'ailleurs des précisions sur les futurs échanges de prisonniers et d'otages entre Israël et le Hamas.
Et demain, le Hamas remettra à Israël les corps de 4 otages avant la libération de 6 otages samedi. En échange, Israël va libérer les prisonniers palestiniens et Israël va aussi autoriser l'entrée dans Gaza de maisons préfabriquées ainsi que du matériel pour déblayer les ruines. Reportage à Gaza de Rami El-Merari avec Pierre-Olivier à Jérusalem.
Depuis plusieurs jours à la frontière avec l'Égypte, des dizaines de tractopelles et de maisons préfabriquées attendent de pouvoir rentrer dans l'enclave. À Gazaville, cela fait plusieurs mois qu'Abou Abdallah vit dans sa maison à moitié détruite.
Il faut que le matériel pour les réparations puisse entrer, car sans ça, la colère et la frustration vont être encore plus grandes et la situation encore plus instable. Cette aide logistique va permettre de calmer la population, d'apaiser un peu les esprits.
Depuis le cessez-le-feu, Ali Alada a pu retourner dans le nord de Gaza après avoir été contraint de fuir les bombardements. Mais problème, il n'y a rien pour reconstruire.
Depuis que je suis revenu, je vis dans une école transformée en abri. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse reconstruire nos maisons avec les fournitures nécessaires.
Mais sans engin de reconstruction, impossible de reprendre une vie normale. Boussaïna Oda vit dans un abri de fortune avec ses 3 enfants.
Il n'y a plus aucun service pour la sécurité et la construction. L'aide ne parvient pas jusqu'ici. Et à force de vivre comme ça, eh bien, on se dispute avec mon mari et mes enfants ne se supportent plus.
Selon plusieurs sources reprises par la presse israélienne, la première phase de l'accord de cessez-le-feu prévoirait l'acheminement de 60 000 maisons préfabriquées. Ramiel Megari, Gaza, Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Il est 9h10 à Rio de Janeiro, au Brésil, avec un drôle de symbole.
Et ouais, le Brésil qui organisera la prochaine COP, le prochain sommet mondial contre le changement climatique. Le Brésil annonce son adhésion à l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole.
Et on y reviendra dans le prochain journal dans une heure. On reste d'ailleurs au Brésil, encore avec l'inculpation de l'ancien président Jair Bolsonaro.
Vous savez, ce président qui prenait Donald Trump en modèle au point de refuser le verdict des urnes et sa défaite à la dernière présidentielle. Résultat, Jair Bolsonaro vient d'être inculpé pour un projet de coup d'État. Il risque en théorie 12 à 40 ans de prison. Mais ça n'a pas trop l'air de l'inquiéter, Nicolas Rocca. Comme Donald Trump, Jair Bolsonaro prépare son retour politique.
Oui, je ne suis pas du tout inquiet, a indiqué l'ancien président en sortant d'un déjeuner avec des sénateurs de l'opposition quelques heures avant l'annonce de son inculpation. Malgré un rapport de 800 pages qui rassemble les preuves sur son projet présumé de coup d'État, le camp Bolsonaro nie en bloc et prépare la réplique. Il n'y a aucune preuve, a estimé sur X le sénateur Flavio Bolsonaro, fils aîné du dirigeant d'extrême droite. Alors qu'une arrestation de Jair Bolsonaro avant un éventuel procès semble peu probable, il s'active pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle de 2026. Il espère faire annuler sa condamnation à 8 ans d'inéligibilité pour affronter à nouveau le président Lula, dont la popularité est au plus bas. Ce mercredi, il réunit le chef de l'opposition à l'Assemblée et d'autres députés pour garantir leur soutien au projet d'amnistie des responsables de la tentative de coup d'État. Jair Bolsonaro espère aussi modifier la loi qui exige que les candidats à une élection disposent d'un casier judiciaire vierge, une loi qui, selon lui, est utilisée pour persécuter la droite.
Nicolas Rocca du service international de RFI.
Retour en France à 13h12, heure de Paris, avec une nouvelle motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou.
Motion déposée par le Parti Socialiste après les propos du Premier ministre sur la submersion migratoire. Motion de censure qui sera rejetée puisque le Rassemblement National ne va pas la voter, évidemment. Le RN, faiseur de roi, c'est ce matin qu'était auditionné Richard Ferrand, le candidat d'Emmanuel Macron pour le poste de président du Conseil constitutionnel. Candidature contestée au nom de l'éthique. Richard Ferrand a eu des ennuis avec la justice, au nom de la compétence. Il n'en a aucun en droit, il a d'ailleurs reconnu ce matin. Au nom, enfin, de l'indépendance, lui qui est l'un des derniers fidèles d'Emmanuel Macron. Bref, de tout cela, il s'est défendu, Richard Ferrand. Il s'en est défendu ce matin devant les députés, puis les sénateurs. Raphaël Delvauvé, il y a un vote. Le Rassemblement National devrait sauver Richard Ferrand.
Oui, en tout cas, les députés RN de la Commission des lois se sont dit rassurés par les mots de Richard Ferrand. Ils s'abstiendront et rendent du coup un rejet plus difficile à obtenir, car c'est un peu compliqué, mais il faut les 3/5 des votants des deux commissions, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Beaucoup d'élus d'opposition accusent depuis tout à l'heure, des élus aussi bien de gauche et de droite d'ailleurs, le RN de complicité avec Emmanuel Macron, car c'est vrai, Marine Le Pen, en donnant cette consigne d'abstention rate une très belle occasion de mettre en difficulté le président de la République. L'entourage de la chef des députés RN assure toutefois que Richard Ferrand était le choix le moins pire, car d'autres noms, d'autres options en cas de rejet circulaient, comme ceux de Christiane Taubira ou Éric Dupond-Moretti. Le RN, comme d'autres dans l'opposition, exigeaient ce matin des garanties d'impartialité de la part de Richard Ferrand. L'ancien président de l'Assemblée nationale a affirmé sa liberté. « J'ai toujours été et je reste un homme libre. L'indépendance d'esprit est ma nature », a-t-il notamment déclaré. Il s'est aussi distingué face à la gauche qui l'accusait de s'être prononcé en faveur d'un 3e mandat d'Emmanuel Macron, ce qu'il a fermement démenti, pointant la responsabilité des réseaux sociaux.
Merci Raphaël Delvolvé.
On termine en musique avec la sortie du premier album d'un artiste qui s'est fait connaître sur TikTok.
Il s'appelle Frédéric Opinay. Puisqu'il est né à Bordeaux il y a 23 ans, il s'est choisi comme nom de scène Opinard. Il s'est fait donc connaître sur les réseaux sociaux avant d'enregistrer son premier album, Hugo Casaligno.
Pluie, montagne et soleil, c'est le titre du nouvel album d'Opinard. Opinard qu'on avait découvert avec Texto, un titre qui avait enflammé TikTok il y a 2 ans.
Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Et dans les rues de Bordeaux.
Et après un premier opus qu'il a fait découvrir à un plus large public, Opinard ne cesse de rencontrer le succès. Il sera à l'Olympia, et c'est déjà complet, ce samedi où il va défendre ce nouvel album. Avec pluie, montagne et soleil, Opinard a voulu nous montrer qu'il n'était pas seulement inspiré par la bossa nova, mais aussi par des artistes de sa génération tels que Tyler the Creator, Frank Ocean ou l'anglais Tom Misch. On l'entend même rapper et chanter sur du reggae. La guitare qu'il a appris tout seul accompagne ses textes au romantisme absolu. Il nous parle de confiance en soi, de trahison et de relations personnelles, comme sur ce titre toujours très bossa, Le Feu, en playlist RFI.
Le feu s'est éteint, il s'est endormi peu à peu sans même que l'on voit. Nous étions si beaux dans le même convoi, et c'est si dommage que l'on soit du soir au matin.
Le feu, Opinard sur RFI, les 13h15 à Paris, RFI midi. Continue avec vous, Alban Le Prince.
Merci beaucoup, Florent Guignard. Il est 13h15 à Paris. Le journal des sports, c'est avec vous, Florence Valmet, bonjour.
Bonjour Alban.
En football et la Ligue des Champions, on connaît les noms des quatre premiers qualifiés sortis des barrages.
Oui, et Monaco n'en fait pas partie. Scénario à suspense hier soir à Lisbonne face au Benfica. Les joueurs d'Adi Hütter ont mené à deux reprises, mais ce sont finalement les Portugais qui ont eu le dernier mot. Match nul, 3-0. Les Lisboètes menaient d'un point grâce à leur victoire à l'aller. Fin du parcours en Ligue des Champions pour les Monégasques. Qualification sur le fil pour le Bayern Munich, qui a été poussif face aux Écossais du Celtic Glasgow avec un match nul, un but partout, mais qui voit donc les huitièmes grâce à sa victoire 2-1 au match aller. Enfin, deux clubs créent la surprise. Le Feyenoord Rotterdam se qualifie aux dépens de l'AC Milan et le club Bruges assomme l'Atalanta Bergame 3-1 après un succès déjà à l'aller 2-1.
Quatre clubs en huitièmes. La suite des barrages retour de la Ligue des Champions, c'est ce soir.
Deux équipes déjà quasiment qualifiées pour les huitièmes de finale et que l'on va suivre de près ce soir avec une victoire 3-2 à l'aller contre Manchester City. Le Real Madrid est plutôt bien embarqué et reçoit les Anglais ce mercredi au Santiago Bernabéu. Pour l'entraîneur mancunien Pep Guardiola, son équipe n'a qu'un pour cent de chance d'éliminer les champions d'Europe en titre, qui s'il vous plaît ont déjà 15 trophées à leur actif. De quoi être confiant côté merengue. Écoutez le milieu de terrain uruguayen et vice-capitaine du Real, Federico Valverde, au micro de Pierre Chaperon.
On n'a pas besoin de remonter le score, du moins pour le moment. Donc on est plus tranquille sur ce point. Mais bon, au final, l'important est d'entrer sur le terrain concentré, fort, et d'essayer de faire en sorte que ce soit une belle soirée, une nuit dont tous les supporters se souviendront, un match qui nous rapprochera du titre. Je suis très content de ce que nous avons fait à l'aller. Il y avait beaucoup d'envie, et je suis très motivé parce que je vois comment l'équipe travaille. Je vois la détermination de mes coéquipiers, je vois comment tout le monde s'entraîne ces derniers jours. Cela apporte une grande sérénité, car nous savons que l'équipe sera bien. Tout ça me donne beaucoup de calme et aussi beaucoup de confiance pour aller chercher la qualification.
Et le match sera à suivre dès 20h TU.
Et à la même heure sera donné le coup d'envoi d'une rencontre PSG-Brest.
Les Parisiens qui ont déjà un pied en huitième. Les hommes de Luis Enrique se sont largement imposés à l'aller. 3-0, dont un doublé d'Ousmane Dembélé. C'est un immense défi que s'apprêtent à relever les Bretons qui, rappelons-le, participent pour la première fois à la Ligue des Champions. Mais le coach brestois Éric Roy assure que son équipe se déplace pour gagner et embêter les Parisiens.
J'ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j'ai gagné 5-4. Pour nous, moi, 3-0, il reste en plus 90 minutes et pas que 45 minutes, on va dire que c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j'arrive à le transmettre à mes joueurs, on ne sait jamais. Les leviers, je vais essayer de les trouver dans la nuit, là. Je vais essayer de bien dormir dessus et d'avoir des mots justes pour préparer ce match et dans la causerie. Mais il est évident que déjà de vouloir faire un véritable match, d'avoir bien sûr un peu plus de réussite, parce que comme on l'a dit, au-delà du score fleuve, on peut pas dire qu'on a eu beaucoup de faits de jeu pour nous. En ce moment, on n'a pas trop en plus les dieux du foot avec nous. Donc si on souffre depuis quelques semaines pour que tout s'aligne, pourquoi pas, quoi. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il faudra, ça c'est sûr.
Et on le disait, coup d'envoi de PSG-Brest, 20h TU. Les deux autres matchs de la soirée, le Borussia Dortmund accueille le Sporting Portugal après une large victoire 3-0 à l'aller. Le match est à 17h45 TU. Et puis le PSV Eindhoven, de son côté, reçoit la Juventus Turin à 20h TU. Une rencontre indécise puisque les Italiens mènent d'un petit point seulement. Pour vivre cette soirée spéciale Ligue des Champions avec nous, rendez-vous dès 19h40 TU sur notre antenne.
Donc. Merci beaucoup Florence Valmet. Ça y est, on connaît le programme. Mais d'ailleurs, du côté du Real Madrid, après des débuts difficiles, Kylian Mbappé est encore très attendu par les supporters des Merengues. Il semble maintenant totalement intégré et épanoui dans la capitale espagnole. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI à Madrid, Cédric de Oliveira.
Un crack, c'est ce qu'on entend souvent dès qu'on prononce le nom de Kylian Mbappé dans les rues de Madrid. Pelocas Sergio, supporter du Real, a laissé son ami de 15 ans, Javier, déclarer son amour pour l'attaquant français.
C'est un crack, un phénomène, c'est le numéro 1. Il va terminer la saison avec 40 buts. Il avait juste besoin de s'adapter, mais à l'époque, quand on avait recruté Zidane, c'était la même chose. Il avait mis une demi-saison à s'adapter. Les cracks finissent toujours par retrouver leur niveau.
Plusieurs fois repoussé, l'idylle entre Mbappé et son club de cœur a finalement débuté l'été dernier. Mais le numéro 9 madrilène a d'abord vécu plusieurs mois compliqués. Javier Iraez est journaliste spécialiste du Real pour la Cadena Ser.
Il avait d'autres choses à gérer que le foot. Il fallait s'adapter à ses nouveaux partenaires, un nouveau pays, une nouvelle ville. Il a eu des soucis avec la sélection française. Il a aussi été impliqué dans cette affaire de viol présumé en Suède. Toutes ces choses qui n'étaient pas très positives.
Mbappé avait produit des prestations décevantes contre Liverpool, le Barça ou encore l'Athletic Bilbao cet automne. Mais depuis décembre, un déclic s'est produit. Il a déjà marqué à 24 reprises cette saison.
Je savais que je pouvais changer les choses et les choses ont changé, donc je suis très heureux de pouvoir aider mon équipe comme je l'ai fait lors des derniers matchs. Je devais faire plus, je le savais, et il y a eu un moment, un déclic. Je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer, j'ai changé et maintenant il faut continuer comme ça.
Même si son équipe ne convainc pas toujours dans le jeu, son entraîneur Carlo Ancelotti est ravi de pouvoir compter sur lui avant de retrouver Manchester City.
Il a montré qu'il était bien physiquement maintenant. Il est motivé évidemment et je trouve qu'il gère plutôt bien le stress. Il a l'air tranquille. Et en ce moment, je le trouve vraiment bien.
C'est sans doute la clé du retour au premier plan de l'ancien joueur du PSG. Sa condition physique est désormais optimale et il a maintenant toutes les cartes en main pour mener encore le Real vers les sommets.
Pour moi, c'est un joueur différent. Il fait des choses qui surprennent. Il est de la caste des Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est la super classe. Et ce genre de joueur ne doute jamais. Il va fédérer autour de lui pour les prochaines années. Le leader du Real maintenant, c'est Kylian Mbappé.
Buteur au match aller à Manchester, Mbappé veut confirmer au match retour dans le genre d'affiche dont il raffole pour montrer au Real qu'il ne s'est pas trompé sur son compte et peut-être lui apporter une 16e Ligue des Champions en fin de saison. Cédric de Oliveira, Madrid, RFI.
Real Madrid, Manchester City, coup d'envoi à 20h, temps universel à 7h. Occasion, soirée spéciale Ligue des Champions pour suivre ce choc en direct et en intégralité sur RFI, prise d'antenne dès 19h40 temps universel. On rappelle les autres affiches prévues aujourd'hui: PSG Brest, PSV Eindhoven, Juventus Turin et Borussia Dortmund Sporting Portugal.
RFI Midi, Alban Le Prince.
On en parlait un petit peu plus tôt sur RFI, l'émissaire de Donald Trump sur l'Ukraine, Keith Kellogg, est donc arrivé ce matin en Ukraine, à Kiev, au lendemain d'une réunion entre les chefs de la diplomatie américaine et russe à Riyad, en Arabie Saoudite. Marco Rubio et Sergei Lavrov, les premiers pour parler en 3 ans entre Russie et États-Unis, qui excluent l'Ukraine et l'Europe de ces négociations. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Philippe Golub. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. On va essayer de décrypter avec vous ces négociations en cours pour trouver une solution à la guerre en Ukraine à 5 jours du 3e anniversaire du conflit. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui dit vouloir mettre fin cette année à cette guerre, affirme que Donald Trump vit dans un espace de désinformation russe. Donald Trump qui est même allé jusqu'à accuser l'Ukraine d'être à l'origine de la guerre. Qu'est-ce qu'il entend par là ?
C'est-à-dire que c'est un argument commode pour justifier le changement abrupt de position américaine sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, accuser l'Ukraine de façon absurde d'avoir initié cette guerre est une manière pour Trump de changer la conversation autour de sa responsabilité dans la réorientation radicale de la politique américaine. Et qui change la donne de façon fondamentale. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes là dans un changement radical de posture américaine. Les États-Unis veulent aujourd'hui, sous Trump, trouver un modus vivendi, non pas une alliance, mais un modus vivendi avec la Russie de Poutine pour de nombreuses raisons. Une raison étant de pouvoir libérer les capacités américaines pour se concentrer sur la Chine, en Asie orientale, objectif beaucoup plus important selon les selon l'administration actuelle et selon les stratèges américains en général d'ailleurs. Et deuxièmement, parce qu'ils considèrent que la les coûts de cette guerre pour les États-Unis ont été exorbitants sans contrepartie. Il y a là du mercantilisme de son côté. Vous êtes peut-être au courant du fait qu'il y a un document en préparation côté américain qui exige de Zelensky qu'il signe l'octroi à perpétuité des ressources minérales, pétrolières et gazières, les ports et autres infrastructures ukrainiennes à 50% pour les États-Unis, quelque chose de tout à fait extravagant, n'est-ce pas? Donc on est là à la fois dans du mercantilisme et une politique stratégique qui n'a aucune espèce de considération pour le droit international ou pour les pertes humaines engendrées par cette guerre.
On peut vraiment parler d'un renversement, d'un bouleversement de la diplomatie américaine vis-à-vis de la Russie, un changement complet de paradigme par rapport au Reaganisme.
Par rapport au Reaganisme et surtout par rapport à ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. La politique américaine d'expansion de l'OTAN après la guerre froide a été une politique qui a peut-être engendré certaines des conditions qui ont créé un antagonisme russo-occidental au cours des 30 dernières années. Mais les États-Unis avaient comme intention stratégique au cours de cette période, depuis Reagan, vous avez raison, Reagan, Clinton et après, avaient comme intention non pas d'endiguer systématiquement la Russie, mais de s'assurer que la Russie ne redevienne plus une puissance de premier ordre, c'est-à-dire une puissance capable de confronter les États-Unis au niveau global, n'est-ce pas? Ils voyaient, comme l'a dit Obama, la Russie comme puissance régionale, comme puissance moyenne. Et donc, c'était là l'orientation principale américaine stratégique depuis la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, la politique américaine est de réintégrer cette Russie-là, considérée toujours comme une puissance moyenne à part ses forces nucléaires, dans le jeu américain pour pouvoir contrer la Chine. Donc là, il y a véritablement un changement d'optique.
Philippe Golub, pour les États-Unis, la confiance, il n'en était pas question vis-à-vis des Russes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les choses ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne suis pas sûr que la question, au fond, c'est une question de confiance. Je ne pense pas que l'administration actuelle ait confiance en la Russie. La Russie, je ne pense pas non plus que la Russie de Vladimir Poutine ait confiance en l'administration américaine actuelle ou les États-Unis dans un sens large. C'est pas une question de confiance, c'est une question de stabilisation des relations après une période de coupure radicale de ces relations. La Russie était membre du G8 avant l'invasion de l'Ukraine. Donald Trump voudrait que la Russie réintègre le G8, mais ça dépendra évidemment aussi des autres membres du G8. Donc je ne pense pas que ça se fera rapidement. Donald Trump négociera sans doute une relaxation des sanctions en direction de la Russie, à condition que les Russes accèdent à certaines de ces demandes pour la terminaison du conflit, c'est-à-dire qu'ils voudraient que Poutine arrête et que ses ambitions territoriales s'arrêtent là où elles sont aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup. Donc il y aura certaines conditions, il y aura des négociations qui vont commencer. Mais le fait même que les négociations commencent, le fait même qu'il y ait eu la rencontre de Riyad, est une reconnaissance diplomatique de Poutine à un moment où il était totalement isolé côté occidental, et c'est incontestablement une victoire diplomatique importante pour la Russie. Donc c'est un changement important, oui. Mais dans une situation où les États-Unis, et je le répète, considèrent que la Chine représente le défi fondamental, et je crois que la logique sous-jacente est celle-là.
Merci Philippe Golub d'avoir été avec nous ce midi sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Prisonnier du rêve écarlate, ou le roman d'un espoir tragiquement déçu, l'espoir d'un jeune communiste français confronté dans sa chair aux atrocités du régime soviétique, un roman porté par le souffle de l'histoire et le style d'Andrei Makine. L'écrivain sera notre invité.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI.
8 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
À l'occasion de la conférence mondiale sur la sécurité routière, comment améliorer l'état des routes et des infrastructures en Afrique? Nous parlerons des feux tricolores, des passages piétons, des panneaux de limitation de vitesse, des ronds-points, des glissières de sécurité. Bref, comment aménager des routes plus sûres pour favoriser les déplacements de tous les usagers africains?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.